9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Bien le bonjour mes amis, Maître Cern est ravi de vous retrouver pour la 13e émission de l'année 2022 et la 2e émission durant cette période de Ramadan. D'ailleurs, au moment où je vous parle, j'ai les lèvres toutes sèches et j'ai déjà soif. Bon, sinon j'espère que le Ramadan se passe bien pour vous. Surtout, j'espère qu'il vous reste un peu d'huile pour faire vos petits plats, car chacun sait que le musulman n'est pas le prince de la cuisine à vapeur. Nous, on aime bien cuisiner avec le zeyt, hein, de l'huile par-ci, de l'huile par-là. Et quand on met pas d'huile, on met du sucre et du beurre. C'est ce qui explique que c'est pendant le Ramadan que Maître Cern prend du poids, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Sauf que vous aurez remarqué, tout comme moi, que un, le prix de l'huile ne cesse d'augmenter. Deux, certains magasins sont presque en rupture de stock au point qu'on en est à être rationné. Tout fout le camp dans ce pays, sans compter le prix de l'essence qui explose, le gaz qui flambe, le prix de l'électricité qui devient fou. Si ça continue, on va bientôt utiliser des tickets de rationnement. Mais où sont les gilets jaunes, ceux qui ont foutu le bordel quand l'essence était beaucoup moins chère? Ils attendent peut-être l'élection du nouveau président de la République. Transition excellente de Maître Cern pour évoquer le sujet qui suit. Ayons d'abord une pensée émue pour Valérie Pécresse, qui a cru jusqu'au bout qu'elle pouvait être à la tête de ce pays et qui se retrouve à la tête non pas d'un État, mais d'une dette de près de 5 millions d'euros. Un appel au secours a été lancé pour l'aider financièrement. Alors à votre bon cœur, mes amis, c'est Ramadan, il faut être généreux. Si vous voulez faire un don à Valérie Pécresse, qui, je le rappelle, a un patrimoine estimé quand même à près de 10 millions d'euros, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire hein, sur maître.cern@gmail.com. Je ferai suivre sur mon compte, évidemment. Mais c'est pas le plus grave. Le plus grave, paraît-il, c'est que ce pays sera peut-être dirigé par Marine Le Pen. Et je dois reconnaître que beaucoup de mes amis, aussi arabo-musulmans que moi, n'excluent pas de voter pour elle, tellement ils en ont marre de cette équipe de start-upers qui a dirigé la France pendant 5 ans. D'ailleurs, j'ai reçu un message curieux sur WhatsApp, un type que je ne connais pas et qui, après avoir listé les propositions de Marine Le Pen, conclut à la fin de son message: ceux qui déclarent voter pour l'extrême droite le 24 avril, merci de me retirer immédiatement de votre liste d'amis. Eh bien, je l'ai retiré, même si je sais que c'est pas bien, je ne vote jamais. C'est quand même étonnant comme réaction. Voilà une élection dans un pays démocratique qui présente en finale deux candidats. On peut évidemment ne pas aimer la candidate du Rassemblement National, mais à qui la faute? À celui qui s'est comporté comme un prince, et je m'en foutiste, à l'égard des petites gens qui, paraît-il, peuvent trouver un job en traversant la rue, qui emmerdent les non-vaccinés, qui remet un titre comme par magie aux Ukrainiens, qui proposent une retraite à 65 ans. Alors ne soyez pas étonnés que les Français, après avoir mis au pouvoir la gauche, la droite, le centre, et après avoir été systématiquement déçus, soient aujourd'hui tentés par un parti extrême. Allez, assez disserté sur la politique, appelez-nous pendant qu'il est encore temps au 01 53 48 3000 pour poser vos questions. Émission sous le contrôle de celui qui aurait pu animer le débat du second tour Macron-Le Pen. À vous, maestro.
Ah non, moi je laisse ça à Adil Farkan. Là, franchement, aucun intérêt.
Oh.
Non, aucun intérêt. Enfin, moi ça m'intéresserait même pas.
Du tout.
Même pas en rêve. Bon. Non, la politique, chacun son métier. Moi je préfère animer les émissions avec l'imam Abdelali Mamoun.
Oui, d'accord.
Parler des vrais sujets.
Oh, enfin, voilà. C'est un vrai sujet quand même, le débat du second tour, non? Ou c'est totalement accessoire?
Bah, déjà, il faut être bon pour animer ce genre de débat. Parce que je veux dire, pour le coup, c'est un vrai métier. Ça a l'air facile.
Vous parlez d'Adil Farkan alors?
Maître Cern. Un café pour Maître Cern, deux croissants et un Twix aussi.
Étant plus jeune, j'adorais les Twix appelait Raider.
Qu'on appelait des Raider, qui étaient les deux doigts coupés. Hein,
voilà. Ouais. Et maintenant, ça me dit plus rien. Je crois qu'avec l'âge, je mange de moins en moins de sucreries.
De sucreries. Bon.
C'est pas un bon signe, ça. Ça veut dire que je vieillis.
Non, moi, je préfère quand vous parlez de tous ces prix qui sont en train d'exploser et que personne ne dit rien. Moi, ça me paraît fou de voir aujourd'hui ce qui est en train de se passer dans les magasins. Mais c'est tous les jours que ça augmente et personne ne dit rien.
Quand
vous voyez aujourd'hui ce que ça vous coûte une table de Ramadan, c'est pas du tout le même prix que l'année dernière.
C'est exactement ça.
Donc,
et les magasins sont blindés. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des queues pas possibles.
Il y a des queues chez les bouchers. On a l'impression qu'il va y avoir une pénurie de viande. Hein. Donc, à partir de 18h, les gens vont chez le boucher. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le... Voilà.
Donc c'est assez surprenant. Et puis bon, je crois que ça n'intéresse personne, puisqu'effectivement, on n'en parle pas plus que ça.
Maître Serran, nous allons essayer de faire la différence ce matin entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales. C'est pas la même chose ?
Alors, c'est pas la même chose. Alors, pourquoi pourquoi ce sujet ? Parce que on a deux magistrats qui ont des compétences communes dans des sujets assez particuliers. Le juge aux affaires familiales va intervenir, alors très souvent, hein, il intervient dans des procédures de divorce. Alors évidemment, quand on est dans le cadre d'une procédure de divorce et qu'il n'y a pas d'enfant, le juge aux affaires familiales rend sa décision et le juge, par définition des enfants, n'intervient pas. Sauf que dans beaucoup de procédures de divorce, vous avez des enfants qui sont concernés. Donc le juge aux affaires familiales, indépendamment de dire en gros, quand on est dans le cadre d'une procédure de divorce, comme on dit, pour faute, qui a tort, qui a raison, indépendamment de se prononcer là-dessus, il doit également se prononcer sur les modalités de résidence de l'enfant, sur les modalités du droit de visite et d'hébergement, sur la pension alimentaire qui devra être versée par le père ou par la mère. On a cette compétence qui apparaît, en tout cas qui apparaissait, puisqu'ensuite il y a une légère modification, auprès du juge des enfants. Le juge des enfants, lui, intervient dans deux domaines très différents. C'est-à-dire qu'il peut intervenir avec sa casquette de juge pénal. C'est-à-dire qu'un enfant a commis une infraction, il intervient à ce niveau-là, c'est le côté répressif.
À partir de quel âge des enfants, justement, peuvent être présentés devant un tribunal ?
Alors, on peut être présenté devant un tribunal. Alors, d'abord, on est présenté quel que soit, alors je veux dire quel que soit l'âge, au-delà de 10 ans, vous êtes à minima présenté.
À partir de 10 ans.
Voilà, vous êtes présenté d'abord devant le juge des enfants. Ensuite, en fonction de votre âge, donc vous avez des sortes de paliers, vous avez 13 ans et vous avez 16 ans. Ensuite, vous pouvez évidemment vous retrouver soit devant un tribunal, c'est l'équivalent du tribunal correctionnel, soit devant l'équivalent d'une cour d'assises pour les enfants. Donc vous avez le côté répressif du juge des enfants et vous avez le côté protecteur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un enfant qui est considéré comme étant en danger, le juge des enfants peut intervenir. Et c'est à ce moment-là que ces deux magistrats peuvent traiter du même sujet. C'est-à-dire que parfois, au sein d'un couple, alors qui, entre guillemets, se fait la guerre, vous avez des enfants qui sont considérés comme étant des enfants en danger. Et très souvent, on entend l'un ou l'autre des parents dire, le père, la mère, peu importe, voilà, il se comporte mal avec notre enfant, il est violent avec notre enfant, il l'insulte ou il le frappe. Est-ce que je peux saisir le juge des enfants ? Techniquement, oui. Il n'y a pas de difficulté, c'est-à-dire que cette maltraitance peut être évoquée devant le juge du divorce, et le juge du divorce prendra des mesures, mais on peut aussi en parallèle en parler au juge des enfants, faire un signalement auprès du procureur de la République qui, lui, saisira le juge des enfants. Le danger en la matière, quand les faits sont établis, quand ils sont avérés, c'est normal de s'en inquiéter, d'assurer la protection de l'enfant et donc de le signaler au juge. Mais vous avez parfois, ça peut sembler curieux, mais c'est comme ça, vous avez parfois des parents qui se font, entre guillemets, un peu harakiri. C'est-à-dire que ils sont prêts à sacrifier l'enfant, quitte à mentir sur le comportement de l'autre parent, en disant, bah, si moi, j'ai pas la garde de l'enfant, personne n'aura la garde de l'enfant. Alors, le danger, c'est que le juge des enfants prend parfois des mesures qui peuvent être des mesures radicales. C'est-à-dire que si ce que vous déclarez n'est pas forcément vrai, si c'est surtout pour embêter l'autre partie, vous pouvez vous en mordre les doigts, puisque le juge des enfants pourrait décider d'un placement de votre enfant, alors au sein d'une institution, au sein d'une famille d'accueil. La difficulté, c'est quoi ? C'est qu'un placement, ça peut aller très vite. Je peux vous assurer que pour récupérer un enfant, il faut vous réveiller de bonne heure. Et j'ai été contacté il y a à peine 48 heures par une femme qui me disait la même chose, en me disant, bon, mon mari, entre guillemets, a ou aurait menti pour que notre enfant soit placé parce qu'il m'en veut. L'audience a lieu, le magistrat va rendre la décision, elle me dit, bah, mon mari a réfléchi, il aimerait revenir devant le juge pour dire qu'il a menti et qu'il a exagéré. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit, et en particulier quand on est devant un juge pour enfants, parce que je vous le redis, on peut ensuite le regretter amèrement. Bien évidemment, vous savez, les juges pour enfants, ils veulent pas prendre de risques. C'est-à-dire que quand ils considèrent qu'il y a un danger potentiel qui concerne un gamin, le temps de savoir qui dit vrai, le temps de que l'enquête se termine, et l'enquête se termine pas en 15 jours, le temps de savoir tout ça, leur mission qui est légitime est d'assurer la protection de cet enfant. Sauf que on vient pas voir un juge pour enfant toutes les semaines ou toutes les 48 heures, c'est-à-dire qu'un juge pour enfant, quand il rend une décision, en règle générale, c'est une décision qui est valable une année. Et on revient ensuite pour apporter des éléments nouveaux, s'il y a des éléments nouveaux, pour voir si la mesure est reconduite ou pas. Donc il faut faire attention à ça, même si on peut en vouloir à l'autre, il vaut mieux éviter de jouer cette corde-là et tenter d'embêter l'autre en jouant la carte de « tu t'es mal occupé de l'enfant » ou « l'enfant risque un danger ». Le problème, c'est que ni monsieur ni madame finiront entre guillemets par voir ce gamin qui finira par être placé.
Donc c'est au final tout le monde est perdant.
Non, mais tout le monde est perdant, mais c'est assez surprenant. Hein. C'est se faire harakiri, c'est ça qui est assez surprenant. On en a au cabinet.
Politique de la terre brûlée. Voilà,
ils vous disent que pour le terme qui est pas joli, pour emmerder madame ou pour emmerder monsieur, je vais faire ça. Mais quand on leur explique que la conséquence d'avoir été terrible pour le gamin lui-même,
c'est d'avoir le problème. Oui, c'est les enfants qui morflent. Hein,
c'est exactement ça. Donc quand on leur explique ça, que le gamin va se retrouver au sein d'une famille, au sein d'une institution à cause d'une bêtise due ou des parents, certains vont jusqu'au bout de leur raisonnement, qui peut encore une fois sembler totalement stupide, et qui en prennent conscience lorsqu'ils lisent la décision du juge pour enfants, qui dit il y a un danger potentiel, donc on va placer l'enfant. Sauf que, je le redis, quand c'est comme ça, on dit, écoutez, est-ce qu'on peut faire appel ? Alors oui, mais ça dure une année. Est-ce qu'on peut revenir devant un magistrat ? Oui, mais on reviendra au bout d'un an. Donc il faut faire attention à ça. Donc voilà, on a deux magistrats, deux institutions qui sont amenées donc à rendre des décisions et qui ont des compétences communes en la matière, avec un rectificatif, une décision qui a fait jurisprudence là, qui date d'une année. C'est-à-dire qu'on considère que c'est la décision du juge aux affaires familiales, lorsqu'on traite de la même famille, du même enfant, qui est prioritaire, qui est valable, sauf circonstances exceptionnelles. C'est-à-dire que si le juge aux affaires familiales a rendu une décision et qui dit le droit de visite et d'hébergement doit s'exercer de telle ou telle manière, vous ne pouvez revenir sur cette décision en saisissant le juge pour enfants que si vous avez des éléments sérieux, et en règle générale, ce sont des violences à l'égard de l'enfant. Mais maintenant, il y a une sorte de hiérarchie. C'est la décision du juge aux affaires familiales qui est prioritaire sur la décision du juge des enfants.
À partir de quel âge un enfant peut-il saisir le juge des enfants ?
En fait, il faut qu'il ait, entre guillemets, conscience de la situation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge particulier, mais en règle générale, quand c'est comme ça, alors on demande aux parents de rédiger un petit courrier où l'enfant dit « Madame, monsieur le juge, j'aimerais être entendu ». À partir du moment où vous remettez ça au juge aux affaires familiales, il va convoquer l'enfant. Alors quand il le convoque, c'est pas évidemment, alors souvent on me dit « Mais est-ce que je pourrais être là ?» Enfin, les parents posent la question. Non, c'est l'enfant qui peut d'ailleurs être assisté par un avocat, mais c'est l'enfant seul, est-ce qu'on peut, qu'on peut comprendre ? Et c'est une histoire de discernement. C'est-à-dire que le magistrat va d'abord essayer de savoir si l'enfant comprend la situation, s'il est cohérent autant que faire se peut dans ses propos. Donc il n'y a pas d'âge, entre guillemets, d'âge fixé par le code. Donc c'est le magistrat qui appréciera si l'enfant a conscience de cette situation et si il comprend, entre guillemets, dans quelle situation il se trouve à ce moment-là.
Vous pouvez poser toutes vos questions à Maître Serrane au standard 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, Maître Serrane vient de terminer son chocolat. Il peut donc maintenant répondre à vos questions au 01 53 48 3000. Là, tout seul. Hein.
Vous n'avez pas honte de dire un truc pareil.
Non, j'ai absolument pas honte. Rapprochez-vous de votre nouveau micro,
Maître Serrane. C'est un nouveau micro.
Voilà, regardez ça. Il faut le diriger vers vous.
C'est-à-dire que vous avez entendu ce qu'elle vient de dire. Non, c'est n'importe quoi.
Qu'est-ce qu'elle a dit, Madame Elbouga?
On parle de règles. Moi, je parle d'un chocolat, on me tape sur la tête et elle dit ça, vous lui dites rien.
De règles juridiques.
Juridique. J'avais pas compris.
C'est ça.
Autant pour moi. Bon. J'ai l'esprit tordu.
J'espère que Kamel va nous sortir et nous sauver de cette situation. 01 53 48 3000. Kamel, bonjour, bienvenue. Ou pas.
Bonjour Philippe, une ancienne connaissance, bon, à la radio surtout. Hein,
bah, donc, écoutez, Kamel, bienvenue.
Depuis très longtemps. Et si vous me permettez, ma petite introduction à moi, parce que j'ai entendu Maître Serra nous faire une très belle introduction que j'ai beaucoup appréciée. C'est un grand orateur, et c'est tout à son honneur, et ça fait plaisir aussi. Ça change un petit peu toujours les discours classiques. Là, on a eu droit quand même à beaucoup, beaucoup de culture de la part de Maître Serra.
Ouais, vous êtes en train de dire, Kamel, que Maître Serra n'est pas politiquement correct.
Oh, j'oserais pas, Philippe, vous savez.
Il est impolitiquement correct. Mais Maître Serran, c'est un peu son genre de beauté, de ne pas être politiquement correct.
En tout cas, merci.
Mais j'ai pas cru à votre histoire de chocolat, hein. Ouais, j'ai pas cru. Hein.
Ah, pas merci, Kamel.
Ah bon, bonjour, je raconte mal les histoires?
Ah bon? Non, mais moi, ça me paraît. Bon, c'est pas le moment, on va dire. C'est pas le moment.
Ah bon?
Bientôt. C'est bientôt, bientôt.
Ah oui, alors bientôt, 20h45.
Voilà, exactement.
Kamel, si vous avez une question, elle est la bienvenue.
Oui, Maître, écoutez, j'ai une question. J'ai loupé le vendredi dernier, j'ai oublié de vous appeler, j'avais une très importante. Alors, ma question, et je voudrais me marier en Algérie, donc je suis de la double nationalité, et je voudrais me marier en Algérie, parce que voilà, je suis amoureux d'une charmante dame là-bas, et voilà, donc je voudrais vraiment savoir comment faire mes démarches pour ne pas me tromper. Et pour gagner, évidemment, du temps. Voilà ma question à Maître Serran. Alors, et surtout ça.
Pour ne pas vous tromper, Algérie, on parle de l'aspect juridique, voilà. Parce qu'en règle générale, la probabilité de se tromper quand on se marie, elle est quand même forte. Mais si c'est sur l'aspect juridique, monsieur... alors, vous êtes donc de double nationalité.
Et vous dites ça à quelqu'un d'amoureux?
Amoureux,
oui. Il est amoureux. Voilà. Oui, non, mais ça commence toujours comme ça. On est toujours amoureux. Et puis, dans la minute qui suit, oui, je la veux, à partir de ce moment-là, les emmerdes commencent. Mais bon.
Voilà,
si Kamel en a conscience, c'est l'essentiel.
Oui.
Bah, si vous êtes de double nationalité, Kamel, donc le mariage peut se faire auprès des autorités consulaires. Donc, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. J'imagine que votre volonté, c'est qu'une fois mariée, vous souhaitez que madame vienne au pays.
Oui, un peu, oui. Quand même, c'est pas strictement permanent.
Voilà,
oui, bien sûr. Ouais. Oui, oui.
Bah, voilà, enfin, c'est-à-dire que c'est pour ensuite vivre sur le territoire français avec madame.
Oui, hein, entre les deux, mais vivre principalement en France, voilà. Absolument. C'est tout à fait ça.
Donc, une fois que... alors, vous aurez formalisé votre divorce, encore une fois, auprès des autorités consulaires. Alors, les autorités consulaires pourraient...
Je ne suis pas divorcé, maître, une petite précision.
Ah, c'est... vous êtes marié au moment où je parle?
Non, je suis célibataire, j'étais en concubinage, donc voilà, je n'ai pas d'obligation.
D'accord. Donc, voilà, mais vous voulez vous marier avec cette femme, est-ce qu'on est d'accord?
Bien sûr. Bien sûr,
voilà. Donc j'en reviens à ce que j'ai dit, c'est-à-dire que vous pouvez formaliser votre mariage auprès des autorités consulaires en Algérie, puisque vous êtes de double nationalité, et les autorités consulaires alors peuvent formaliser le mariage sans aucune difficulté, ou pourraient, s'ils ont entre guillemets un doute sur la couleur du mariage, puisqu'on parle souvent de mariage gris, de mariage blanc. Donc, ils pourraient décider de vous convoquer l'un et l'autre dans deux bureaux différents et vous poser un certain nombre de questions pour voir depuis combien de temps vous vous connaissez, quels sont le ou les projets envisagés par les uns et par les autres. Donc, voilà, il peut y avoir cet aspect-là. Donc, il ne faut pas être surpris. Ça arrive relativement souvent. Et puis, si on considère que les réponses apportées par vous-même et par madame sont des réponses qui, entre guillemets, sont cohérentes et qui traduisent une volonté d'amour et de vivre en commun, bon, là, il y aura pas d'opposition de la part des autorités françaises. Sachez que dans l'hypothèse où ça arrive parfois, dans l'hypothèse où il y aurait une opposition à mariage, comme on dit, c'est une décision qui peut faire l'objet d'une contestation.
D'accord.
Mais le plus dur, c'est pas ça, c'est pas de formaliser le mariage auprès des autorités consulaires françaises. Le plus dur, ça va être ensuite, si c'est votre volonté, la volonté de madame de venir sur le territoire français, de d'engager une procédure de regroupement familial.
Oui, c'est
une procédure qui est relativement longue, puisqu'on va, entre guillemets, enquêter sur vous, sur votre situation financière, sur le logement, est-ce qu'il y a suffisamment de place. Oui. Donc il y a le maire qui, enfin un représentant du maire qui va débarquer à votre domicile pour faire un rapport et voir un peu dans quelles conditions madame peut être accueillie. Ces procédures-là, quand elles vont vite, même très vite, ça dure un an et demi quand même. Hein.
Ouais, c'est ça.
Donc voilà, il faut faire attention à ça, puisque moi j'ai vu, il y a des couples qui finissent même par se séparer, puisque la personne qui est au pays finit par croire que en fait le conjoint fait pas l'ombre d'un effort et ça avance pas assez vite. D'accord. Ce sont des procédures qui sont longues, c'est-à-dire que ça il faut dès le début, entre guillemets, l'annoncer à madame. Quand ça va vite, un an et demi est un délai entre guillemets raisonnable pour ce type de procédure.
D'accord. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de manière pour gagner du temps, la procédure.
Ah non, 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 en la matière, malheureusement, il n'y a pas de manière pour gagner du temps. Vous savez, depuis un bout de temps maintenant, les autorités françaises sont très suspicieuses. Alors, parfois à raison, puisque il y a beaucoup de situations où le conjoint qui est sur le territoire français fait tous les efforts du monde, l'intéressé vient sur le territoire français, et puis curieusement il y a une procédure de divorce qui est diligentée dans les 2, 3, 4 mois qui suivent. Donc au bout d'un moment, et là on peut pas en vouloir aux autorités françaises, on finit par considérer qu'il y a parfois une sorte d'arnaque en la matière. Donc les conditions sont de plus en plus strictes, et c'est ce qui fait que ça dure aussi longtemps. C'est pour s'assurer, entre guillemets, que le mariage va encore perdurer.
Oui, je pense, mais en mettre... Donc en Algérie, c'est la procédure classique, au mariage à l'algérienne dans un premier temps, parce que moi, je ne me suis jamais marié en Algérie. Donc la première étape, c'est le mariage là-bas, selon les règles. Hein,
absolument.
Et après, il faut faire la démarche vers le consulat.
Et après, vous faites la démarche auprès des autorités consulaires françaises.
D'accord.
Alors, pardonnez-moi pour la question que je vais vous poser. Est-ce qu'il y a un écart d'âge important entre vous ou pas?
Non.
D'accord. Ouais, non, ça c'est important.
Je suis resté très cohérent. Sobre. Parce que je ne voulais pas tomber dans cette fabulation. Chercher quelqu'un qui correspond à mon caractère, mes critères, mon avenir, mon futur, en fait. Voilà, mon projet, et ça correspond. Voilà, c'est pour ça que...
Ouais, voilà, bon, c'est une bonne chose, parce que, alors, il n'est pas interdit de se marier avec une personne, évidemment, beaucoup plus jeune que soi, oui, mais c'est sûr. Vrai que les autorités françaises sont très suspicieuses quand il y a un écart d'âge considéré comme important.
Alors, je voudrais rebondir pour finir là-dessus. Vous avez raison de poser la question, maître, parce qu'évidemment, les hommes préfèrent toujours avoir des femmes plus jeunes. Évidemment, mais il y a quand même, on va dire, une certaine limite à pas dépasser.
Michel Sardou.
Sauf Michel Sardou.
Ouais, qui s'est remarié avec son amour de jeunesse. Alors ça.
Ah oui, bah vous voyez.
Ouais, non, mais ça c'est bien. Enfin, c'est bien. C'est, au moins, il a été.
Merci à vous, messieurs. Merci infiniment pour ces réponses.
Et tout nouveau de bonheur, maître. Kamel.
Merci infiniment à vous et à très bientôt, j'espère. Dans d'autres occasions.
Merci. Sinon, on fournit l'imam, le DJ, il y a tout. Hein. Si vous voulez, Kamel, on a l'imam Abdelali, il y a DJ Kim pour animer la soirée. Alors, on a Louisa qui est avec nous. Louisa, bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour Philippe, bonjour maître.
Bonjour Louisa.
C'est toujours un plaisir de l'entendre, franchement.
Merci Louisa.
Maître, je voudrais un conseil, s'il vous plaît, un renseignement, si vous pouvez me le donner. Voilà, j'ai ma fille qui a fait sa déclaration sur le revenu en 2020 avec son ex-mari. Divorcé en 2021, devant leur avocat respectif, le monsieur, il a bien dit qu'il avait payé sa part. Et les impôts, ils ont fait le rappel à ma fille. Donc voilà, elle a payé sa part, elle.
Oui.
Et maintenant, ils font le rappel. Même ils ont dit même qu'ils vont faire un saisi sur le revenu parce que monsieur n'a pas payé.
D'accord.
Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle voulait être juste et respecter la loi, payer sa part. Monsieur travaille aussi, elle travaille. Mais comment faire pour qu'il paye sa part? Et lui, il ne veut rien savoir, on n'a plus de contact avec lui. Quoi.
Ouais, c'est toute la difficulté, c'est ce qu'on appelle le principe de la solidarité. C'est-à-dire que les autorités administratives concernant les impôts ne se posent pas la question de savoir, entre guillemets, à ce stade-là, est-ce qu'il y a eu litige entre monsieur et madame, est-ce que vous avez convenu de tel ou tel sort. C'est-à-dire qu'ils ont les coordonnées de quelqu'un, ils ne le lâchent pas, c'est-à-dire qu'on va vous demander de régler l'intégralité de l'impôt, et inviter entre guillemets votre fille à se retourner contre monsieur. Donc vous voyez, c'est le travail le plus facile pour les impôts, ils récupèrent leur argent tout de suite et à charge pour votre fille de se débrouiller. Mais si vous me dites que vous avez commencé par là, que ce partage des impôts, cet accord a été formalisé devant un avocat.
Oui.
D'accord. Donc c'est écrit noir sur blanc, il y a ce qui s'appelle une convention qui le formalise.
Ah non, c'est justement au moment du divorce, donc ma fille a dit devant leur avocat respectif, devant lui, elle a dit moi je ne signe pas tant qu'il ne me dit pas qu'il a payé sa part d'impôt. D'accord. Et lui tout de suite, si, j'ai payé.
Enfin d'accord, mais c'est, alors elle est particulièrement naïve, c'est-à-dire qu'il dit oui si, c'est bon, ça s'arrête là, le croit sur parole.
Oui, mais attendez, après, quand il y a eu le rappel, donc ma fille a appelé son avocate, elle lui dit, comment ça se fait? Devant vous et devant son avocate, il a dit qu'il a payé, et là, on me fait appel. Donc son avocate a appelé l'avocate de monsieur, lui disant, si, il a payé, il y a des preuves et tout. Et là, on les voit pas. Nous, il y a une preuve.
Madame, après, il y a deux choses, c'est-à-dire que si c'est payé, s'il y a des preuves, d'avocat à avocat, il y a ce qui s'appelle des échanges de pièces, c'est-à-dire qu'elle peut en justifier. Si vous avez l'impression qu'entre le moment où vous demandez les preuves et le moment où les impôts vous tapent sur la tête et que le temps s'est écoulé, c'est qu'a priori, monsieur a menti. Alors, il a pu aussi mentir à son propre avocat. Vous savez, ça arrive très souvent hein, que des clients racontent des bêtises à leur propre avocat. Ça me semble moins un peu léger de la part de votre avocat d'abord de pas avoir pris toutes les garanties et peut-être avant de formaliser la procédure de divorce de s'assurer document à l'appui que les impôts ont bien été réglés. Mais il y a pas mille options. Si l'avocat de monsieur ne justifie pas du dit règlement, c'est qu'a priori, il n'a pas réglé. Et d'ailleurs, s'il avait réglé, les impôts ne seraient pas en train d'embêter votre propre fille. Donc, si on est dans cette hypothèse-là, malheureusement, madame, il n'y a pas d'autre option que de régler le montant qui est dû aussi par monsieur à charge, ensuite, pour votre fille de se retourner contre lui. Ou alors, mais j'ai cru comprendre que vous ne saviez même plus maintenant où se trouve monsieur, j'allais dire, ou alors de donner aux impôts le maximum d'éléments, donc je ne sais pas si monsieur travaillait, s'il a des comptes bancaires.
Oui.
Dans ce cas-là, il faut que votre fille donne toutes ces informations au service des impôts et éventuellement les inviter pour la part restante à se retourner contre monsieur. Mais ils ne sont pas obligés.
On a envoyé deux courriers, on a envoyé la preuve.
Ouais, je comprends bien, c'est-à-dire que le raisonnement étant de dire on va pas s'embêter à faire des procédures pour essayer de récupérer la moitié restante puisque on a quelqu'un sous la main et ce quelqu'un c'est votre fille. Donc c'est un raisonnement qui est terrible, mais c'est un raisonnement qui juridiquement est valable et tient la route, c'est-à-dire qu'on va inviter avec des gros guillemets votre fille à régler l'intégralité à charge pour votre fille de se retourner contre monsieur.
Mais justement, elle ne veut plus avoir contact avec lui parce que c'est une mauvaise expérience. Pour elle, il était franchement...
Fais sa bille là, madame. Donc, elle paye et puis elle ne demande rien. Mais,
je préfère le donner aux pauvres.
Non, c'est
pas à lui.
Non, mais j'entends bien. Mais vous comprenez bien que si elle ne se retourne pas contre lui, mais je peux comprendre le fait de dire, entre guillemets, je m'en débarrasse et puis il faut que je revienne. Mais si elle ne le fait pas... J'imagine que monsieur spontanément va pas régler sa part en lui disant tiens merci d'avoir avancé l'argent, je vais te rembourser. Donc si c'est votre fille qui règle tout, il n'y a pas d'autre option. Si elle veut récupérer ses sous, alors elle oublie.
D'accord. Et comment faire mettre pour récupérer son argent? Si elle les paye, puis elle va faire comment? Elle va porter plainte, elle va faire comment?
Non, puisque ça c'est pas du pénal, c'est une procédure civile. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle justifie qu'elle a réglé, alors ça commence par un recommandé AR à monsieur pour dire écoute, j'ai payé, merci de me rembourser. Et puis s'il le fait pas, elle devra saisir un tribunal, c'est le tribunal d'instance. Donc c'est une vraie procédure. Donc c'est le côté un peu pénible de la chose pour en demander le remboursement.
Voilà, pour Pour plus d'informations et un complément justement pour poursuivre cette cette conversation, hein, vous pouvez appeler Maître Serane sur son téléphone portable après l'émission, bien sûr.
Ouais, joignable pendant le Ramadan. Mais je serai, vous pouvez m'appeler à midi, hein, je serai pas en train de déjeuner, hein, y a pas de difficulté. Donc au 06 62 58 59 64, 06 62 58 59 64.
De toute façon, vous déjeunez jamais.
En plus, c'est vrai.
En plus, c'est vrai. Donc,
ouais, mais Chétan, vous savez ce que c'est. C'est-à-dire oui, que je déjeune jamais. Et quand il est midi, je suis comme un gamin, j'ai super faim. Alors que je déjeune jamais. Ça s'appelle Chétan, ça. Mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Mais comme je suis un grand garçon, je peux me maîtriser.
Vous pouvez appeler l'imam Abdelali, hein, le soir.
C'est vrai? Ouais, ça me fera plaisir.
Ramadan & Co, vous posez votre question.
Mais je me fais passer pour Maître Serane ou.
Non, pour un auditeur.
Ouais,
on voit s'il marche ce soir, tiens. Allez, chiche. Allez, 01 53 48 3000. En attendant, vous posez vos questions à Maître Serane jusqu'à 10h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Il y a du travail, Maître Serane, au standard, au 01 53 48 3000. Alors nous avons Rabat qui est avec nous. Rabat, bienvenue. Rabat.
Bonjour, allô?
Oui, on vous écoute, Rabat.
Bonjour, Philippe. Bonjour, grand maître.
Bonjour, Rabat.
Ah, quand je vous dis que c'est votre fête aujourd'hui.
Ah oui, c'est une heure. C'est le plus grand avocat du barreau de Paris.
Oh bah, là-bas, on va manger ensemble.
Inch'Allah.
Hein? Oui. On se dit ça.
Bon, vas-y, tu m'invites.
Tu m'invites. Ouais, il a touché ses tickets restaurant.
Oh. Il a plus que ça, je crois.
Mais c'est vrai, d'ailleurs, j'ai jamais.
On en parlait à l'instant, justement. Maître Serane pensait changer sa voiture, là, donc. Allez, Rabat, votre question.
Voilà, ouais. Ouais, en fait, moi, c'est concernant la pension alimentaire. Jusqu'à quand on peut la payer?
Alors, jusqu'à ce que l'enfant soit autonome. C'est-à-dire qu'un enfant qui serait majeur, souvent on me dit, bon, il a 18 ans ou il va avoir 19 ans, j'arrête de payer. Si l'enfant est majeur et si, notamment, il poursuit des études, il reste, entre guillemets, d'abord à la charge de sa mère et donc à votre charge. Donc, si vous avez une pension alimentaire à régler, ce sera sous réserve qui justifie, encore une fois, hein, de sa situation. C'est-à-dire, vous avez le droit de dire, je veux savoir ce que fait l'enfant. Et puis, si...
Non, mais je les vois.
Mais il a quel âge, à l'enfant?
Moi, j'en ai deux. J'ai une fille qui va avoir 22 ans.
Ouais.
Qui est en fin d'études d'infirmière.
Bon.
Elle est en fin d'études.
D'accord.
Et puis, j'ai un fils qui, lui, est en BTS, enfin, en alternance. Bon, ils sont rémunérés, mais après,
Alors,
ma fille est en dernière année.
Voilà, c'est-à-dire que le fait d'être rémunéré, c'est vous pouvez invoquer cet argument, mais ça veut dire à charge pour vous, s'il n'y a pas d'accord avec la mère des enfants, à charge pour vous de ressaisir le juge aux affaires familiales pour dire voilà, moi ma situation a évolué, voilà la situation de mes enfants. Mais le principe c'est ça, c'est-à-dire que tant que les enfants continuent leurs études, il n'y a pas entre guillemets d'âge limite en la matière.
Non, ouais, c'était juste la question, en sachant qu'il était rémunéré, tout simplement.
Mais vous pouvez le mettre en avant, et le montant de la pension alimentaire varie également si vous, votre situation a changé. Je dis n'importe quoi, mais quelqu'un qui voit son salaire baisser, ou quelqu'un qui s'est entre-temps remarié, ou si vous avez eu des enfants avec une autre personne, évidemment, voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle des éléments nouveaux, mais si c'est pas le cas, et si vous ne revenez pas vous-même devant le juge aux affaires familiales, c'est la mère des enfants qui finira par vous dire tu peux arrêter.
Enfin, je pense qu'elle ne le dira pas, mais bon.
La probabilité est infinitésimale. Oui, c'est sûr que elle, en tout cas, elle vous le dira pas. Mais c'est de bonne guerre. C'est-à-dire que c'est à celui qui veut modifier la décision de saisir.
Mais à partir d'un certain âge, est-ce que la pension ne doit pas être directement versée aux enfants?
Il n'y a pas d'obligation.
Parce que si vous avez 22 ans ou si vous avez.
C'est sur la déclaration, de toute façon, elle est rémunérée. Enfin,
ouais, après,
elle est rémunérée directement.
Voilà, c'est un accord. On va dire entre alors avec les enfants, puisqu'effectivement s'ils ont 22 ou 23 ans, avec les enfants ou avec la mère, on peut comprendre que quand les enfants sont mineurs, bon, on verse ça à la maman et ensuite elle dispatche. Mais si vous souhaitez verser ça directement sur le compte de vos enfants, donc assurez-vous quand même que la mère soit informée et qu'il n'y ait pas de difficulté à ce niveau-là.
Oui, d'accord. Non, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Non, là-dessus, de toute façon, ils sont rémunérés directement, enfin par l'intermédiaire de mon mec. sais qu'il est, enfin, leur donne l'argent. Et puis même derrière, je leur donne aussi, parce que bon, bah, bien sûr, ils ont toujours besoin d'argent. Et c'est juste par rapport à la pension. C'est juste cette question-là.
Maître Serra nous a répondu, Rabat.
Tout à fait. Et puis, bah, je vous remercie.
Merci à vous, Rabat. C'est nous qui vous remercions de votre appel. Merci.
Je vous attends, hein, pour le restaurant.
Eh ben, Inch'Allah. Inch'Allah,
ça va, comme.
Allez, c'est le mec.
Merci, Rabat. Alors, on va à Saint-Étienne. Lydia est avec nous. Lydia, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour, Lydia.
Je vous appelle pour une petite question. Voilà, oui, j'ai ma soeur qui est décédée, qui avait un enfant. Le père n'a pas reconnu à la naissance, il l'a reconnu un an et demi après. Et je voulais savoir s'il a des droits sur l'enfant ou pas.
Ben, si le père a reconnu l'enfant, et donc si cette reconnaissance ne prête pas à discussion, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est vraiment l'enfant de monsieur, ben oui, il va retrouver, comme on dit même, recouvrer ses droits sur cet enfant. L'enfant a quel âge ?
Il a 2 ans.
Oui, et monsieur, il dit quoi ? Qu'il aimerait récupérer, ou il a peut-être déjà son enfant ? Qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça ?
Ben en fait, moi, ma sœur, elle a fait un testament. Elle voulait que je garde l'enfant. Et monsieur veut prendre l'enfant.
Ben, il reste, qu'on le veuille ou non, entre guillemets, prioritaire. Alors, je ne sais pas dans quelles circonstances tout ça s'est produit et pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu reconnaître l'enfant à l'époque. Mais il reste, en tout cas par rapport à vous, il reste prioritaire, madame, ce qui est légitime et ce qui est normal. Et ce, d'autant plus que si... Encore une fois, il accepte de s'occuper de l'enfant si sa situation professionnelle lui permet de s'en occuper. Il risque d'y avoir une bataille entre vous et ce monsieur. Mais il peut mettre en avant des arguments sérieux. Donc je vous dis, après, sauf de votre côté à apporter des éléments particuliers pour dire voilà le comportement entre guillemets que monsieur a pu avoir à l'égard de votre sœur, où il l'a abandonnée à partir du moment où il a appris qu'elle était enceinte. Enfin, vous voyez, on est sur ce genre d'argumentaire. Mais sinon, indépendamment de ça, le fait de reconnaître son enfant aujourd'hui, bien sûr, fait que il pourra demander à exercer des droits sur son gamin.
C'est une bataille perdue d'avance, on va dire.
Ah non, c'est pas ce que je suis en train de dire, madame. Le voyez, le à partir du moment où on m'appelle, par définition, j'ai pas tous les détails. Vous voyez, déjà la rupture entre votre sœur et ce monsieur, je ne la connais pas, donc je peux pas vous dire qu'au moment où on se parle, il va gagner d'avance ou pas. Mais comprenez bien que ce sont des éléments qui seront pris en considération si demain vous êtes devant une juridiction. Donc je ne suis pas en train de vous dire que tout ça est perdu d'avance. Maintenant, dans l'hypothèse où un magistrat serait amené à considérer que l'enfant doit rester avec vous, vous imaginez bien qu'on va pas couper définitivement les liens entre le père et cet enfant. C'est-à-dire que dans l'hypothèse même où un juge vous accorderait la garde de cet enfant... a priori, si le père le demande, il permettra au père, légitimement, ça reste son père biologique, il permettra au père de visiter cet enfant. Et oui, les mesures qui concernent les enfants sont par définition toujours provisoires. C'est-à-dire que même si le juge demain vous donne raison, je dis n'importe quoi, mais dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, rien n'interdirait au père de ressaisir un juge aux affaires familiales pour dire « je suis maintenant en capacité de ». Donc ça reste quand même une mesure qui n'est pas définitive, même si vous avez un premier jugement en votre faveur.
Oui, voilà, là j'ai un premier jugement, là j'ai un deuxième jugement qui n'est plus à ma faveur.
Mais au moment où on se parle, madame, vous avez déjà un jugement ?
Oui.
J'ai eu un truc provisoire, et donc il a gagné.
Là, ça concerne tous les auditeurs. Si vous pouviez commencer par me raconter votre histoire dans le bon sens, c'est-à-dire que faut commencer par ça, madame. C'est-à-dire que donc vous avez.
Oui, mais elle teste aussi votre sagacité.
Oui, non, mais je suis compétent. Il n'y a pas de problème. Donc ça, on va arrêter de me tester. Voilà, c'est jugé et c'est accepté. Mais donc au moment où on se parle, est-ce qu'on est d'accord ? C'est-à-dire que vous me dites, vous avez 2 décisions qui sont en votre faveur.
Ah non, alors j'ai... Non. Ma soeur et Marc, on a fait quelque chose de provisoire avec les personnes de l'ASE.
D'accord.
Ensuite, ils sont passés au tribunal, ils ne m'ont pas convoqué, ils ont convoqué que le papa. On n'a pas compris pourquoi. Et la femme de l'ASE m'appelle me disant, ça y est, c'est le papa qui a la garde.
Ouais. Ah bah
et
oui.
Et donc, je reste là, suspendue. Mais pourquoi moi, ils ne m'ont pas appelé?
Ah bah c'est assez surprenant. Alors quand elle vous dit elle vous a pas appelé, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. On vous a dit entre guillemets on considère que vous n'avez rien à faire dans l'histoire ou c'est une erreur de procédure.
Eh bah alors c'est que on m'a dit que le papa on devait entendre en premier le papa et ensuite moi.
Non alors ça légitimement il y a pas de difficulté mais puisque vous me confirmez qu'elle vous a ou elle vous aurait déclaré qu'on aurait dû vous entendre et ça n'a pas été fait donc ça peut éventuellement. Encore une fois, je n'ai pas les détails de l'affaire, mais éventuellement être considéré comme une erreur de procédure. Est-ce que vous avez un exemplaire de la décision qui a été rendue ou pas?
Je vais le chercher tout à l'heure à 11h.
Bon, si cette décision ne correspond pas à vos souhaits, je crois comprendre qu'elle ne correspond pas à vos souhaits, il n'y a rien qui vous interdit, madame, d'interjeter appel.
Ah, c'est ce que je vais faire. Ok. D'accord.
Voilà. Okay.
Et vous nous tenez informés de cette histoire, Lydia. Merci de votre appel. Maître Serran, on vous retrouve vendredi prochain dans un instant. C'est Adil Farkan qui sera là avec les informés de Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.